Bienvenue dans l'oreille de Vénus.
Je m'appelle Anso, j'aime le riz de jonjon et je suis présidente de l'association Patriarchie.
Je m'appelle Pauline, j'aime les couchers de soleil et je suis directrice de l'association Patriarchie.
C'est notre toute première chronique.
Et on vous propose une chronique mensuelle et féministe qui abordera des thématiques diverses et variées, du coq à l'âne comme...
Le tatouage.
La mort.
Les femmes dans le sport.
La musique.
La colère. As-tu de grosses fesses, chère auditrice, chère auditeur ? Eh bien, cette chronique est faite pour toi.
Sinon, tu peux aussi l'écouter avec tes petites fesses.
Ça tombe bien parce qu'on va parler de twerk et de fesses. On va se demander notamment pourquoi on dit que les femmes noires ont de grosses fesses. Parce qu'il y a une vision positive des corps gros en Afrique.
Il y a même une fête.
Ah ouais.
Au Niger, il y a une fête qui s'appelle Maniforie et en gros, bah, okay. C'est la fête des grosses. Il faut dire que la graisse dans les hanches et dans les fesses, bah, c'est un réservoir d'énergie qui peut être quand même bien pratique pendant l'accouchement ou des périodes difficiles. Du coup, on a une vision plutôt positive des fesses dodues.
D'ailleurs, le twerk, c'est un geste lié à la fertilité, à la santé et à la beauté. C'est célébré dans de nombreuses cultures africaines. C'est la contraction de to work ou to jerk, donc remuer en anglais. C'est un mouvement du bassin qu'on voit beaucoup dans les clips de rap, souvent très sexualisés.
C'est vrai ça. Pourtant, le twerk, bah, ça trouve ses origines dans des danses africaines comme le bikuti au Cameroun ou le mapuka en Côte d'Ivoire et au Congo. Secouer le bassin et les fesses, c'est pas un geste sexuel et il est pratiqué par tout le monde, les hommes, les femmes et même les enfants.
Donc bien plus qu'une danse populaire ou sexy, le twerk a des racines profondes dans la tradition africaine et porte une histoire de résistance, de jeu de pouvoir, de réappropriation du corps et de culture.
Ah ouais, il y a plein de trucs.
Et ouais.
Mais du coup, pourquoi ce choix du twerk pour notre toute première chronique, Sophie ?
Parce que, ma chère Pauline, le sujet du twerk cristallise l'aspect raciste, l'aspect de l'appropriation culturelle et l'aspect sexiste.
Ok, du coup, on va d'abord commencer par une petite histoire du twerk. Et c'est vrai que c'est important de parler de twerk parce que bah, son histoire, elle est quand même intimement liée à celle de la colonisation et de la traite esclavagiste. À partir du 15e siècle, le corps des personnes noires et notamment des femmes noires sont des marchandises, des objets et parfois même des objets sexuels qui appartiennent à leur maître. Du coup, on pose un regard qui est quand même européen, très raciste sur les personnes et les corps noirs. Ils sont différents, exotiques, hypersexuels, voire moins intelligents. Mmh. Et c'est ces caractéristiques-là qui sont utilisées pour légitimer la domination, l'exploitation et même le viol.
À l'image de Sarah G. Bartman, une femme noire, une jeune femme noire d'origine sud-africaine qui a été capturée en 1810 et paradée en Europe au 19e siècle. Son corps à moitié nu est exposé dans les salons pour les curieux et les pervers. Car il est vu comme un spectacle, une curiosité. Elle est réduite en esclavage sexuel et trouvera une fin bien triste à peine 5 ans plus tard, à l'âge de 25 ans. L'histoire de Sarah G. Bartman est celle de la déshumanisation et la fascination morbide pour le corps noir. D'ailleurs, il y a le film « La Vénus noire » d'Abdel Latif Kechiche qui retrace cette partie-là de sa vie.
Mais quand même, petit moins pour la vie d'Adèle, Abdel.
Ouais, en effet.
Le twerk, les mouvements du bassin et au final bah, tout ce qui découle ou qui a trait de la culture et du corps noir sont vus par l'Occident comme un signe de promiscuité, de pauvreté et on finit par déconnecter cette danse de son sens culturel originel.
Le twerk renaît dans les clubs de Nouvelle-Orléans dans les années 80 et 90 avec la bounce music et le dancehall. Dans le dancehall en Jamaïque, il devient un moyen pour les femmes noires de s'exprimer, se réapproprier leur corps et même créer des carrières artistiques.
Alors que dans le hip-hop aux États-Unis, c'est des femmes à poil dans les clips, une image avilissante de la femme objet. Une voiture, une chaîne ou une femme en bikini, bah voilà, tout ça c'est des petits éléments de statut pour le rappeur de Ludacris à NTM pour rester en France. Jette-moi dans les yeux
ton regard de panthère. Et à partir des années 2000, les rappeuses comme Lil Kim, Nicki Minaj ou Cardi B utilisent leur sexualité comme une arme, c'est-à-dire affirmer leur identité et leur autonomie ou la transformer en pouvoir personnel et économique.
Et puis en parallèle, on a des rappeuses comme Diams, Kenny Arcana ou Missy Elliott qui se forgent une identité qui est complètement opposées à toute forme de féminité. Elles sont hyper couvertes pour ne pas qu'on utilise leur corps et leur sexualité contre elles.
Ce qui a permis aujourd'hui l'accès au rap mainstream aux nombreuses femmes qui fleurissent dans le genre.
Parce qu'il n'y en a pas en fait. Bref, si on parle de twerk, c'est aussi pour parler d'appropriation culturelle. Mais dites-moi, Sophie Jamy,
oui,
qu'est-ce que c'est l'appropriation culturelle ?
Eh bien, ma chère Pauline Jamy, c'est quand on utilise les éléments d'une culture à laquelle on n'appartient pas, sans la connaître, sans la respecter, que ce soit pour son profit personnel ou économique, sans jamais créditer son origine et en niant les enjeux, les oppressions qui y sont attachées.
Ok, en gros, c'est mettre une coiffe d'Indien pour Halloween, voilà. Alors qu'on sait très bien que c'est un symbole traditionnel spirituel fort, se déguiser en geisha ou mettre une perruque afro pour une soirée karaoké. Et c'est vrai que bah, le twerk aussi, il est victime d'appropriation culturelle, en fait, parce que c'est la très blanche Miley Cyrus qui popularise ce terme en 2013. Elle monte sur scène et elle fait un très triste et timide mini-twerk, mais n'empêche que c'est ce twerk-là qui permet l'entrée du mot dans le dictionnaire américain.
Donc, twerk, perruque, faux ongles, tissage, coiffure, extension sont de nombreux éléments d'apparat des femmes noires qui sont repris par des femmes blanches ou autres.
Type Kardashian.
Exactement. Quand c'est nous qui le portons, c'est ghetto, mais quand ce sont des femmes blanches, alors là, c'est cool.
C'est vrai que ben, les femmes noires, elles subissent beaucoup la stigmatisation. Mmh. Leur culture, elle est célébrée, mais ailleurs, et elle est plutôt vue comme un objet de divertissement ou de spectacle.
Mais je vous entends déjà ronchonner en disant « Non, mais c'est le principe des cultures, elles doivent être partagées. » mais oui, pourquoi pas. Mais dans le respect mutuel et la reconnaissance. On peut apprécier, pratiquer une danse comme le twerk, tant qu'on reconnaît la source culturelle et crédite la communauté concernée.
C'est vrai, nous on n'est pas la police de la culture. D'ailleurs, Patriarchie, il vous propose un atelier twerk qui est ouvert à tout le monde, où le but justement, bah, c'est d'en apprendre plus sur cette danse, mais ce qu'elle signifie, comment elle s'ancre dans l'histoire, c'est quoi le contexte, et tout ça avec Christelle, qui est prof de danse afro-caribéenne. Si ça t'intéresse et que tu veux participer à nos ateliers, il faut nous suivre sur Instagram, Patriarchie Magazine.
Danser, c'est exister, c'est résister, c'est célébrer ses racines et son corps. Le twerk, c'est reprendre le contrôle sur son corps, son image et même ses revenus. Il offre un espace où les femmes noires peuvent célébrer leur corps, s'exprimer librement et renverser les injonctions sociales. Certaines l'utilisent pour se libérer de traumas, de tensions concentrées au niveau des hanches, par exemple la boutithérapie de Maïmouna Koulibaly. Puis des études montrent que danser ou twerker est même un exercice cérébral stimulant dopamine, adrénaline et capacité de coordination.
Twerker, c'est le reflet d'une histoire, une culture et d'une lutte contre l'oppression et d'une volonté de reprendre pouvoir, liberté et fierté. Et c'est vrai que bon, bah, cet héritage colonial et patriarcal dont on vient un peu de parler, il affecte encore beaucoup de monde aujourd'hui, toutes les personnes afro-descendantes et notamment les femmes racisées. Et cet héritage nous laisse les discriminations et les violences racistes qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est pas figé dans le passé. Et il faut dire que les femmes noires, aujourd'hui, c'est les personnes les plus discriminées en France. Toutes les études le montrent, que ce soit pour trouver un emploi, un logement, une situation économique, des opportunités. Et ça, c'est sans parler des violences dans l'intimité et même au sein de la communauté noire. Comment ça se fait, là, cette arnaque, Sophie ?
Eh bien, écoute, ma chère Pauline, parce qu'elles sont, j'irais même nous, puisque moi-même, je suis une femme noire, sommes au carrefour de plusieurs oppressions. Déjà parce que victimes de sexisme, puisque nous sommes des femmes, et victimes de racisme, puisque nous sommes noires, entre autres. On appelle ça l'intersectionnalité. Donc, c'est être à l'intersection de plusieurs discriminations. C'est un terme popularisé en 1989 par une femme noire, la juriste Kimberlé Crenshaw. Donc, c'est pas un outil qui hiérarchise les souffrances, mais plutôt un outil d'analyse pour mieux comprendre l'expérience et la place de chacun et chacune dans la société.
Vous l'avez compris, si on voulait vous parler de vos fesses et de twerk, c'est surtout pour vous parler d'afroféminisme, parce qu'on est un peu sneaky comme ça. Bon, qu'est-ce que c'est l'afroféminisme ? C'est simple, c'est un mouvement de lutte féministe qui est créé par les femmes noires, pour les femmes noires, et qui se concentrent sur leurs conditions et leurs expériences.
C'est un courant de pensée et de lutte féministe qui analyse et combat les oppressions spécifiques vécues par les femmes noires en tenant compte simultanément du racisme, du sexisme, de l'héritage colonial et esclavagiste, parfois de la classe sociale, de la religion, de la migration, etc.
L'afroféminisme y prend ses racines dès le 19e siècle aux États-Unis, avec des figures comme Sojourner Truth et son discours « Ain't I a woman ? Ne suis-je pas une femme ?» en 1851. Et elle connaît une renaissance aux côtés du mouvement Black Power dans les années 70 avec Angela Davis ou Bell Hooks. Et en France, c'est la martiniquaise Paulette Nardal qui est la figure de proue du mouvement de la négritude avec Aimé Césaire ou Léopold Sédar Senghor. Mais Sophie, comment ça se fait que personne ne la connaît, Paulette Nardal ?
Eh bien, tout simplement parce qu'elle a été victime de l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Elle et ses sœurs ont été effacées. Pourtant, ce sont des intellectuels qui ont orchestré dans leur maison à Paris des salons littéraires, un lieu de rencontre et de débat pour les fameux Aimé Césaire ou Léopold Sédar Senghor. Eux, ils ont été surmédiatisés, car hommes, alors que les sœurs Nardal ont été laissées d'oubli, car femmes.
Mais du coup, c'est des hommes noirs qui les ont effacées du mouvement pour libérer les personnes noires. C'est carrément nul.
Ouais, c'est plus que nul. Et on revient donc au concept d'intersectionnalité, qui pose un cadre à l'oppression que les sœurs Nardal ont vécue. Donc une oppression que l'on nomme misogynoire. Et la misogynie noire, c'est la combinaison entre le racisme et le sexisme qui produit des stéréotypes, violences et discriminations spécifiques.
Sacré combo. Du coup, je comprends mieux pourquoi c'est important de parler d'afroféminisme aujourd'hui. Et en fait, ça fait penser à Yana Kamura. Elle subit énormément de moqueries, sans parler des blagues racistes et d'autres contenus douteux, alors que c'est quand même l'artiste française la plus écoutée au monde en ce moment. Et c'est la seule avec Mylène Farmer à remplir 3 fois un stade de France. Du coup, elle aussi, elle est victime de misogynie noire.
Oh oui, et pas qu'un peu. Aya Nakamura, c'est une femme noire inspirante qui ne se gêne pas de prendre la place tout en jouant avec les codes. Mais qui, malheureusement, se détache difficilement de l'image véhiculée par certaines personnes et médias, puisque son physique est souvent comparé à celui d'un homme, que son comportement est vite jugé hautain, et je parle même pas de celles et ceux qui disent « on ne comprend rien, c'est du yaourt ».
Oui, Aya Nakamura, Théodora ou même Rokhaya Diallo. En fait, il y en a plein, hein, des exemples hyper actuels, d'actualité, qui illustrent de qu'est-ce que c'est la misogynie noire et qui nous montrent bien que l'afroféminisme, c'est un mouvement qui est très contemporain et très nécessaire aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'une féministe, même blanche, même très bien intentionnée, elle ne peut pas connaître mieux qu'une personne noire et qu'une femme noire quels sont ses besoins. C'est important, on parle souvent de représentation, là, c'est vraiment ça la clé du truc, quoi. Il faut que ce soit un combat qui soit mené à la première personne par les femmes noires et qu'elles prennent leur place et leur espace avec leurs propres mots et leurs propres voix.
Donc si on parle de twerk, de fesses et de femmes noires, chers auditeurs, chères auditrices, ce n'est pas pour provoquer mais pour rappeler que ce qui est célébré chez certaines devient un problème à régler dans l'oppression chez d'autres. Les corps noirs, surtout ceux des femmes noires, sont constamment scrutés, sexualisés, moqués ou disqualifiés pendant qu'on efface leur histoire, leurs codes et leurs luttes. S'approprier son corps, sa culture et sa voix, c'est déjà résister, c'est faire bouger les opinions, même sans twerker.
Merci d'avoir écouté cette chronique, L'Oreille de Vénus. C'était Pauline
et Anso
de l'association Patriarchie. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine chronique. Et en attendant,
suis-nous sur Instagram.
Patriarchie Magazine. Bye. Yes.